Ce matin, j'aimerais parler de communion fraternelle. Ah bon? Emmanuel, c'est pas ce qu'on a entendu dans le témoignage, tu reprends le thème? Si on parlait, pas de communion fraternelle, mais d'évangélisation. Bon, et le mot est musclé, hein, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas si vous connaissez les gens qui disent ça, mais ils disent, quand ils parlent des évangéliques, ils disent « vous les évangélistes hein ». Mais l'évangéliste, c'est un ministère. L'évangélique, c'est différent. C'est ce à quoi nous appartenons, pour dire à quel point nous avons au centre de ce que nous vivons, l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle? Christ, mort et ressuscité. Lui qui nous pardonne nos péchés, nos fautes, et fait que nous avons une relation rétablie avec Dieu, notre Créateur. Et certains chrétiens aiment réduire l'évangélisation à des événements. Ah, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'évangélisation. L'Église ne partage pas beaucoup notre foi parce qu'il n'y a pas eu le concert, il n'y a pas eu ceci, cela. Enfin, c'est d'événements, quoi. Vous êtes partie de ces gens-là? Et puis on attend le prochain concert, le prochain événement, le prochain truc qu'on va faire, qui va faire qu'on va sortir dans les rues et enfin on fait de l'évangélisation. Mais dites-moi, l'évangélisation, c'est juste des événements? Qu'est-ce que Jésus avait dit par rapport à ça? Et ce qui est vraiment bizarre pour moi, c'est que Jésus ne réduit pas cela à un événement. Bon, ça c'est pas bizarre, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il réduit, il montre que l'évangélisation, c'est vous et moi. Ah bon? L'évangélisation, partager notre foi, vivre notre foi. Mais une chose qui m'a paru vraiment bizarre, c'est que c'est dans ce fameux texte que nous connaissons tous, dans le chapitre 13 de Jean, versets 34 et 35, « Aimez-vous les uns les autres !» C'est le commandement nouveau hein, qu'il donne. « Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » À l'amour que vous avez ou que vous aurez les uns pour les autres. C'est comme s'il disait, ben, à ceci vous accomplissez pleinement, entre guillemets, l'évangélisation, si on veut garder ce mot, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors moi je trouve ça bizarre parce que moi j'ai jamais entendu ça. J'ai entendu ça dans la Bible, ça c'est clair, mais le dire comme ça, dire comment vous accomplissez l'évangélisation, ben, l'amour fraternel. Vous faites ça, vous, ce genre d'évangélisation? Non? Oui? Et pour enfoncer le clou, toujours dans Jean, au chapitre 17, verset 21, Jésus prie même pour cela. Il dit, « Je te demande qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. » Donc, un. « Qu'ils soient un en nous pour que le monde croit. » Pour que le monde croit. Ah ouais, d'accord. Que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, mais il y a pas mal de personnes qui pensent que, en voyant ce texte, ben voilà, l'évangélisation, c'est juste d'être des gens sympathiques, quoi. Et donc, on est sympa, on se respecte les uns les autres, et on est poli. Voilà, on fait toutes ces bonnes choses et même on le fait devant les non-croyants et on espère qu'en étant assez sympathique, ça va toucher les gens. Ça va marcher? Pas trop. Hein. Et la difficulté, c'est qu'en fait, on s'en rend compte que même les non-croyants sont sympathiques et voire. Il y en a beaucoup qui sont voire plus sympathiques que nous-mêmes chrétiens. La foi normalement conduit au-delà de la gentillesse, du côté sympathique, de la politesse, même de la bonté. Selon l'enseignement de Jésus, l'amour est bien plus radical que ces choses-là. Donc j'aimerais qu'on voit de plus près ce que Jésus veut nous dire. Voyons ensemble quel genre d'amour attire les gens à lui. Et je vous invite à lire ce chapitre 13. Nous sommes dans Jean tout au long de l'année. Et voilà, dimanche dernier, nous étions dans Jean 12 et nous allons maintenant dans Jean 13. Et nous allons juste lire les versets 1 à 35. Je dis juste lire, mais en fait, il y a pas mal de versets là. Hein. Mais là, ça va nous aider à comprendre ce que Jésus voulait dire. C'était juste avant la Pâque, ou la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qu'ils étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès du Père, de Dieu, et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua : « Non, tu ne me laveras pas les pieds. Sûrement pas !» Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement. Il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples, déconcertés, se regardaient les uns les autres et se demandaient, « De qui il pouvait bien parler ?» L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple se penchait aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il ? » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui.
Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite.
Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il fallait, leur fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Quand il fut parti, Jésus dit, maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate. Et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres.
Ça aide à comprendre le sens de ces derniers versets, n'est-ce pas ? Toute cette histoire.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, là où maintenant nous sommes dans ce chapitre 13 et nous sommes face à un geste fou. Et la semaine dernière, nous avions vu que Marie avait elle-même fait un geste fou au chapitre 12. Elle avait versé sur le corps de Jésus-Christ un parfum d'une valeur d'une année de salaire. Une année de salaire ! Mais c'est de la folie !
Et là, avec ce parfum, il ne faut surtout pas qu'il tombe. Hein.
Verser ce parfum d'une valeur, d'une année de salaire. C'est complètement fou à vue humaine. Mais quand on comprend bien le passage, on arrive à comprendre ce geste de Marie. Il y a ici énormément de reconnaissance et d'amour envers Jésus-Christ, parce que son frère de Marie qui était mort et qui était resté dans le sépulcre pendant 4 jours, le voilà ressuscité. Mais bien plus encore, il y a autant de reconnaissance, c'est parce qu'elle est consciente que celui qui est là, Jésus-Christ, est la résurrection et la vie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu en personne qui est là. Vous en rendez compte ? Dieu en personne est à table avec nous.
Je déverse ce parfum parce que là, celui qui mérite cela, c'est bien Dieu.
Voilà, maintenant nous sommes face à un autre geste fou, celui de Jésus. Jésus lave les pieds de ses disciples. Quand on ne comprend pas ce que c'était, cela signifiait à l'époque, ça nous dit rien, n'est-ce pas ? Mais vous savez, le pire des esclaves, j'ai bien dit le pire des esclaves à l'époque, plutôt c'était le pire des esclaves qui faisait cela à l'époque. Les disciples, peut-être, auraient pu laver les pieds de Jésus. Jésus, il a fait tellement de miracles. Et plus on avance et plus on comprend que non, là, c'est le Messie. Là, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, a dit Pierre. Donc, il y a une conviction qui est de plus en plus forte ici que celui qui est devant nous, c'est pas n'importe qui. Alors, c'est bien nous, on serait prêts à lui laver les pieds. Mais nous laver les pieds les uns aux autres, alors là, nous, jamais de la vie.
Puisque même un esclave ne le faisait pas, puisque c'était le pire des esclaves qui le faisait. C'est pas nous qui allons nous laver les pieds les uns aux autres.
Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce qui se passe ici ? Jésus fait quelque chose de complètement fou et c'est honteux. C'est une honte, vous comprenez ? C'est une honte de faire ce que cet homme est en train de faire. Ce que Jésus est en train de faire.
Et on se pose la question, mais devant ce que Jésus fait, on se dit, mais il est complètement fou. Mais Jésus, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu sais qui tu es ? Tu sais que tu n'es pas n'importe qui ?
En passant, nous, on sait toujours qui nous sommes. On n'est pas n'importe qui hein, pour servir les autres. Regardez Jésus.
Est-ce que tu es conscient de la grandeur de tes origines ? Es-tu conscient que c'est toi qui as fait les cieux et la terre ? Es-tu conscient que tu es Dieu ? Es-tu conscient de qui tu es pour faire un acte aussi humiliant ?
Et Jean répond à cette question au verset 3. Il dit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Jésus savait qui il était. Il savait cela. Il est conscient de sa puissance, de son autorité sur toute chose, sur sa création, sur toute sa création. Et pourtant, il se permet de faire ce que même un esclave juif ne faisait pas. C'était les esclaves étrangers qui le faisaient. Ce n'est pas possible. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ne peut pas faire quelque chose d'aussi honteux. Il est Dieu. Quand on se regarde nous-mêmes dans les détails de ce que nous sommes, de comment nous sommes créés, nous arrivons à la conclusion que le Dieu vraiment est grand. Quand nous regardons le ciel, la terre, toute la création, on arrive toujours à la conclusion que mais Dieu est vraiment grand. Et quand on essaye de regarder l'immensité de l'univers et d'en calculer l'espace, on n'y arrive même pas, on se dit mais là, en fait, j'arrive plus à dire que Dieu est vraiment grand. Comment arriver à le décrire, en fait? Comment arriver à décrire la grandeur de Dieu? Qu'est-ce qui peut le contenir? Jean a bien compris cela. Il avait lui-même commencé son évangile en disant « Au commencement était celui qui est la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et écoutez bien cela, juste après, « Tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. » C'est pas n'importe qui est là. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Nous, chrétiens, peut-être, nous nous sommes habitués avec le fait que Jésus soit venu sur la terre. Quand j'entends la prière, ma propre vie de prière, je me dis, Manu, mais est-ce que tu es conscient à qui tu t'adresses? Parce que vite, on parle beaucoup d'amour de Dieu. Il est notre ami. Et puis ça, il est notre papa, et puis limite il est notre copain, et puis on se met à s'adresser à Dieu comme si c'était normal quoi, je m'adresse à mon pote quoi, il m'aime, ouais Seigneur tu vois c'est fou hein, on a fait ça aujourd'hui, nanana. Et puis on se met à parler comme ça, mais vous savez à qui on s'adresse? Je sais pas si vous avez vu des prières dans la Bible où c'était vraiment nonchalant comme ça, mais regardons bien. Regardez ces prières incroyables dans les Écritures et quand on regarde même dans le Nouveau Testament, cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, on se dit, mais il est conscient à qui il s'adresse. Normalement, quand on prie, on devrait réfléchir avant de parler. Il y a des gens qui parlent très vite, comme ça, ils déversent leur cœur rapidement sans réfléchir. Mais vous savez à qui vous vous adressez? Et nous sommes habitués que Dieu soit venu sur terre. Nous sommes habitués que Dieu soit venu dans une femme, qui soit devenu bébé et qu'il ait grandi comme nous. Nous habituons à cela. Pour nous, c'est normal. C'est que de la folie, tout ça. Donc, imaginez un peu qu'on arrive jusqu'à que Dieu, non seulement se fait homme, mais en plus, s'humilie jusque-là. J'aimerais vraiment nous aider à comprendre, face à ce texte, qu'on est face à quelque chose qui doit normalement nous laisser sans voix. C'est humiliant ce qui se passe ici. Est-ce que vous arrivez à comprendre cet écart entre l'immensité de ce Dieu qui est là, fait homme, et quelque chose d'aussi humiliant? Vous arrivez à voir ce contraste aussi immense? Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Moi, j'arrive pas à comprendre cela. Je n'arrive pas à comprendre cela. Dans ce texte, le contraste vraiment est saisissant entre l'immensité de qui est Dieu dans la personne de Christ et son humilité. On peut comprendre pourquoi les disciples se sentaient très mal à l'aise hein, à leur place, nous aussi. Hein. Ils sont repris, embarrassés. Ils observent Jésus dans un silence gêné, pénible. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils n'osent même pas parler. Mais Pierre, nous le connaissons bien, n'est-ce pas? Lui, il va dire quelque chose. Jésus qui s'agenouille devant nous, c'est pas normal. Et il est dit que Jésus, dans cet acte, en fait, met le comble à son amour. Cela indique que Jésus va faire quelque chose qui va exprimer d'une manière on ne peut plus fort son amour ici. Il va montrer toute la plénitude et la perfection de son amour dans ce geste. Et bien plus, en fait, ce geste pointe vers la croix. Donc il y a à la fois ce geste, mais aussi dans ce geste, il y a la croix. Et donc, il met le comble de son amour dans ce geste, mais aussi dans la croix. Tout est là, tout est là. Et Jésus ne met pas le comble de son amour à des personnes qui sont au top, hein. Il ne met pas le comble de son amour à des personnes trois fois saints. Il ne met pas le comble de son amour à des personnes qui mettent la parole de Dieu en pratique, tout va bien, etc. Des personnes qui sont entièrement engagées. Non. Quelques temps après, Jésus sait très bien ça, hein. Quelques temps après, Jésus sait, juste à la fin du chapitre 13, que nous n'avons pas lu, il parle à Pierre pour lui dire qu'il va le renier. Jésus sait très bien que tous ses disciples vont partir, vont le quitter. Moi, j'ai formé des disciples pendant 3 ans. J'ai une bonne équipe avec moi. Au moment où on est en train de m'arrêter, tout le monde prend la fuite. 3 ans de formation, mais on dirait que tout est parti en fumée. Vous ne voyez pas le truc là? Ça ne va pas du tout là. Quelle solitude, c'est quoi cet amour là? Et puis, pire encore, Judas, il met le comble de son amour à qui? À celui qui, pourtant Jésus le sait, et il le montre, et il le prouve, là, il n'y a rien de plus clair. Il le sait, il est troublé, il n'est pas comme certains pourraient le penser, il est énervé, bon voilà, de toute façon il va faire le boulot de Satan. Non, il aime cet homme. Et pourtant quelque chose va se passer. C'est comme si Jésus tendait la perche à plusieurs reprises, et on voit même qu'il va tremper un morceau de pain dans le plat. Et vous savez, à l'époque, quand on faisait ce geste-là, c'était pour en signe d'honneur ou en signe d'amitié. Jésus va jusqu'au bout de son amour avec Judas. Le temps est très court, j'aimerais tellement... On passerait plus d'une heure à voir comment Jésus a aimé Judas. C'est énorme, il y a tellement de choses dans ce texte. On l'avait vu un peu avec le groupe de maison et on était vraiment surpris. C'est incroyable, tous les gestes d'amour, les gestes d'amour, comme si Jésus s'attendait, voulait qu'il abandonne son plan. Abandonne ce plan, je t'aime. Je vais jusque-là. Je t'aime malgré ce que tu vas faire. Tu peux encore être pardonné. Je suis là et je suis en train de laver les pieds de mes disciples. Mais en fait, c'est une image symbolique. Je veux te laver toi aussi, Judas. Tu peux être pardonné. Tu peux être pardonné. C'est de la folie ce qui se passe sous nos yeux. On est face à un amour qui nous dépasse. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour le décrire. L'amour et l'humilité de Jésus nous sont révélés d'une manière tellement forte ici. Jésus veut qu'on se lave les pieds les uns les autres. Que voulait-il dire? L'explication de Jésus ne nous amène pas à comprendre son geste d'une façon, dans un sens littéral. Il y a des gens qui le comprennent comme cela, ils se lavent littéralement les pieds. C'est comme si le dimanche ou à un autre moment, on se lave les pieds les uns les autres. Jésus n'explique pas cela dans ce sens-là. Il y a 2 significations ici qui sont très claires. Première chose, c'est que Jésus donne une leçon d'humilité. C'est radicalement contraire à notre manière de faire. Pour nous, quelqu'un qui est chef ne s'abaissera jamais. Combien de familles j'ai rencontrées où j'ai vu les parents qui ne se sont jamais abaissés devant leurs enfants? Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas possible de faire cela. Juste en parlant de famille, on ne parle même pas du président, etc., ou du grand chef d'entreprise. Quelqu'un a donné cette image du grand chef d'entreprise qui va donner un café à la femme de ménage. Des gestes fous. Nous sommes face à quelque chose qui est contraire à notre manière de faire. Et même nous, chrétiens, il y a besoin de renoncer à nous-mêmes. Sinon, ce n'est pas possible. Et on verra tout à l'heure, on a vraiment besoin, en fait, de l'action de l'Esprit. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est qu'en lavant les pieds de ses disciples, il annonce symboliquement sa mort. « Tu n'auras pas de part avec moi, Pierre, si tu n'acceptes pas cela, dans le sens que tu as besoin de moi pour être lavé totalement de ton péché. Et ce que je vais faire, en fait, c'est mourir pour toi. Et même ça, c'est difficile pour les disciples. Et s'ils prennent la fuite, entre guillemets, c'est parce que le roi, celui qui est au-dessus de tout, ben, il se fait arrêter, c'est pas normal, c'est pas dans le tableau qu'on avait en tête. Pourtant, Jésus a tout fait pour rectifier les choses, mais c'est difficile pour eux de comprendre que non, ce roi-là va mourir. Symbole de purification. Et des commentateurs vont même dans le sens d'un symbole aussi de purification quotidienne. Jésus est aussi celui que j'ai besoin chaque jour pour me purifier, pour que je grandisse en sainteté. Je crois en sainteté. Nous laver les pieds les uns aux autres, je vais l'expliquer maintenant et je vais dire plusieurs choses là, c'est s'abaisser pour nous servir les uns les autres. C'est être prêt à accepter n'importe quel service, si dégradant et humiliant qu'il soit, par amour les uns pour les autres. C'est vivre dans l'humilité réciproque, c'est se pardonner mutuellement. C'est être capable de descendre de notre position supérieure pour aller vers celui qui est inférieur. Mais pas juste faire ça, mais le considérer pleinement comme supérieur à nous-mêmes. Mais c'est dur ce truc-là. C'est, alors, disons-le, c'est aimer mon ennemi. Jésus, par sa mort, veut créer, et nous devons l'entendre, une communauté de personnes purifiées par lui qui va être caractérisée par l'amour, le don de soi, l'humilité, le pardon, le service. Je ne veux plus entendre, j'aimerais ne plus entendre une église dire qu'elle est étonnée de voir quelqu'un qui s'est donné pour l'autre. Ce ne devrait pas être de l'étonnement dans l'église. Ça devrait être normal. C'est la vie normale de l'Église. Ici, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Hein. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Dans une communauté, une personne handicapée est aimée autant qu'une personne non handicapée. Dans une telle communauté, une personne de classe moyenne, pauvre, est autant aimée qu'un riche. Dans une telle communauté, une personne d'une autre culture est bien plus aimée que quelqu'un de ma propre culture. Une personne qui nous a blessés, qui m'a blessé, est autant aimée qu'une personne qui est aimable envers moi. Et on peut continuer la liste. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et quand Jésus parle du commandement nouveau, c'est parce que le commandement ancien, c'est lequel ? Aime ton prochain comme ? Et cette fois-ci, c'est aime ton prochain comme Jésus. Aime comme Jésus. Don de soi. Quand une personne est dans le besoin, j'ai rarement vu dans l'église, et je ne parle pas que de l'église de soir, je parle de l'église avec un grand E, j'ai rarement vu, quand quelqu'un est dans le besoin, une queue de personnes qui sont là pour l'aider. On ne devrait pas être étonné si ça devait se vivre, parce qu'on est vraiment au cœur du texte. Il y a des personnes âgées dans l'église à Ozoir. Certaines ne peuvent plus venir, par exemple, ici. Est-ce qu'on se bouscule pour les aider ? Pour aller leur rendre visite ? Ah mais non, mais c'est le pasteur. Ah mais non, c'est ceux qui ont le don. Faisons attention à cela. Ça me fait penser à ces personnes qui disent « Je ne fais pas le ménage parce que je n'ai pas le don. » Facile, hein ? Il y a des personnes qui souffrent aussi. Et des fois, dans un groupe de maison, on entend cette personne souffrir et on prie pour cette personne qui souffre.
mais vous écoutez la personne qui souffre et vous lui dites, qui t'a appelé? Qui est venu te rendre visite dans ton groupe? Une, deux, ou personne? C'est complètement contraire au texte qu'on est en train de lire. Je parlais des parents. Vous, parents, est-ce que vous savez vous abaisser devant vos enfants pour les servir? Pas dans le sens je les laisse faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas du tout ce qui est présent. Peut-être pour la maman, c'est plus simple. Hein, elle s'est sacrifiée pour son enfant. Elle s'est donnée pleinement. Pour le père, c'est un peu différent. Mais s'abaisser jusqu'à lui demander pardon parce que quand je t'ai donné la fessée, j'ai été énervé, j'ai fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Tu avais tort dans ce que tu as fait, mais maman n'avait pas à te donner la fessée de cette manière. J'ai vu ma mère le faire plusieurs fois, et ça a marqué ma vie. Et c'est comme ça qu'on peut marquer la vie de nos enfants. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai rencontrées, ou les choses que j'ai pu voir, ou les bouquins que j'ai pu lire, ou dans une église, les gens sont soi-disant chrétiens, mais quand ils ont des difficultés, ils ne les règlent pas. Je ne les compte plus. Ça fait fou, là. Mais c'est pas du tout ce que Christ est en train d'enseigner, là. À l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est comme ça que nous montrons que nous sommes vraiment ses disciples. Et pas mal de personnes me disent « Ah non, mais c'est réglé. C'est réglé. » Oui, c'est réglé. Mais qu'est-ce qui est réglé vraiment? Quand nous demandons pardon, que nous vivons le pardon, ça va beaucoup plus simple que « c'est réglé. » J'aime, je prie, je fais du bien à l'autre, je le sers. Prêt à m'humilier. Oh, c'est arrivé plusieurs fois où j'ai dû m'humilier devant quelqu'un. Et qu'est-ce que j'aimais ça? Non, on a horreur de ça. C'est humiliant. Pour moi, j'ai blessé quelqu'un. La personne, je le vois bien qu'elle a été blessée. Mais pourtant, moi, j'avais raison dans ce que j'avais vu. Mais Dieu m'appelle à m'humilier pour lui dire, mais j'avais certainement tort dans ce que j'ai fait, ou dans ma manière de l'avoir fait, ou dans la manière d'avoir parlé. Nous sommes dans nos tours d'ivoire et nous avons si bien parlé, n'est-ce pas? Nous avons trop bien parlé. Et nous pointons du doigt l'autre. Il a fait ça, il avait qu'à. Et puis ce qui est très facile, c'est de médire sur l'autre, n'est-ce pas? Vous dites à un frère, un tel, soeur, oui, t'as vu, un tel m'a fait ça, etc. Et ça, on fait le jeu du diable. Mais pas du tout. On n'agit pas du tout en enfant de Dieu. Et là, moi, je me rappelle cette femme à qui j'avais blessé et où j'avais clairement raison, mais elle s'était emportée d'une manière extraordinaire. Je dis, mais je ne vais pas, c'est pas normal ce qu'elle a fait, quoi. Et quelqu'un vient me dire, Manu, tu dois donner l'exemple. Ah ouais? Vous savez, c'est pas que les pasteurs qui doivent donner l'exemple, hein. C'est tout chrétien qui doit donner l'exemple. Je n'étais pas pasteur quand j'ai eu ce problème. Mais Manu, tu dois donner l'exemple. Et tu dois t'humilier par rapport à ça. Je viens vers la personne, c'est dur, bien sûr, mais j'ai pas envie, c'est humiliant, ça m'écrase, je suis au plus bas que terre, mais je suis Manu quand même. Oui, mais Jésus aurait pu dire, je suis Dieu quand même, n'est-ce pas? Je suis Dieu quand même, et je viens sur terre, je suis Dieu quand même, et je viens dans une femme. Des gens ont mis Marie comme si Marie était trois fois saint, elle était pécheresse autant que nous. Si ce n'est qu'elle avait besoin de la grâce de Dieu. Et elle-même, elle dit, elle parle de grâce. C'est la grâce qui fait que cet enfant, je le porte. Jésus ne vient pas dans quelqu'un qui est trois fois saint. Jésus est venu dans... Tout ce qu'on voit de Jésus, c'est de la folie. Jésus aurait pu garder sa position. Et j'en redis dans le verset 3. Relisons le verset 3. C'est le verset 3 qui dit tout. Il savait qui il était. Il savait qui il était. Et pourtant, il fait cet acte. Et je viens vers cette femme et je lui dis, peut-être que dans la manière que j'ai dit ça, j'aurais pas dû le faire, et tu as dit ça et ça t'a blessé, et je te demande pardon. Et c'est pas je te demande pardon et j'attends qu'elle m'envoie des choses. Vous savez, on parle souvent de l'amour sans condition. Parlons aussi de pardon sans condition. Je lui ai demandé pardon, mais elle fait rien pour.
Il y a des gens qui restent là et donc ils restent dans leur tour d'ivoire. J'ai demandé pardon et je l'aime, même si elle ne fait pas pénitence, même si elle ne me montre pas, oui, c'est vrai, t'avais raison, Manu, etc. J'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que Christ a fait? Il n'a pas attendu que ses disciples fassent quoi que ce soit. Il les aimait et s'est donné. Et puis, dans le verset 7, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » Oui, toutes les fois où j'ai vécu le pardon avec 10 personnes, toutes les fois où je me suis humilié, toutes les fois où j'ai vraiment servi, j'ai eu énormément de bonheur après. Pas pendant, mais après. Il y a du bonheur, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est totalement contraire à ce qu'on pense. Mes amis, soyons concrets en amour. Dieu veut que nous nous donnions à fond les uns les autres. Et même l'apôtre Jean dit ceci, que nous devons nous donner notre vie pour les frères. Et quand il dit pour les frères, c'est aussi pour les sœurs. J'espère que, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais j'espère qu'en entendant l'amour de Christ, non seulement vous en êtes touchés, mais vous êtes comme effrayé, parce que vous vous dites, mais c'est plus je comprends cet amour et plus je vois que c'est tellement exigeant ce que Dieu attend de moi. J'espère que vous êtes écrasé sous le poids de ce que Christ vous demande. J'aime pas ce genre de choses où nous sommes face à un texte et nous essayons de mettre tous les équilibres possibles et inimaginables pour arriver à se sentir bien face au texte. Prenons le texte tel qu'il est. Il nous écrase. Et nous, peut-être, il nous remplit de culpabilité. Eh bien, c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose si nous courons dans les bras de Dieu. Pour trouver son pardon. Et pour reconnaître que nous n'arriverons jamais à aimer ainsi s'il n'y a pas l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. J'ai besoin de la puissance de l'Esprit pour vivre un tel amour. Ça ne va pas me faire toujours des guilis. Jésus, quand il s'est humilié comme cela, ça ne lui a pas fait des guilis. Ah, je vais laver les pieds de mes disciples. Oh, tiens, je vais aller à la croix, c'est sympa. Quand il a prié, vous connaissez des gens qui prient et il y a du sang qui coule? Personne ne lui a fait quoi que ce soit. Des grumeaux de sang qui coulent. Il y avait une souffrance énorme avant la croix. Vous n'imaginez même pas ce que Jésus a enduré dans son cœur, dans ses tripes. Mais regardez, plus loin. Et ça alimentait sa joie, sa force. Ce n'est pas si simple, mais j'ai besoin de l'action de l'Esprit. C'est un tel amour que Dieu veut voir se manifester dans l'église à Ozoir. C'est un tel amour, quelqu'un disait, c'est un tel amour qui va conquérir le monde. Vous écoutez dans les pays où les chrétiens sont persécutés, il y a de quoi pleurer de voir la persécution, mais de quoi être touché par un amour qui va beaucoup, vraiment, qui a la lumière de ce texte. Des gens qui vont témoigner de leur foi à des gens qui peuvent les tuer sur le champ. Que Dieu nous saisisse par son amour, au point que nous soyons capables de nous aimer les uns les autres, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, peut-être, d'aimer ceux qui nous ont blessés, d'aimer ceux qui sont différents. Il n'y a pas de limite à l'amour les uns pour les autres. Et c'est à cela. C'est ce que le monde doit voir. Et c'est cela qui va le pousser à venir à Christ. Voilà une des manières d'évangéliser, les amis. La communion fraternelle, vécue comme Dieu le veut. Pas comme nous avons l'habitude de voir l'Église, mais comme Dieu le veut. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, pardon pour notre manque d'amour les uns pour les autres. Brise notre orgueil, brise notre égoïsme. Remplis-nous de ton amour et de ton humilité. Nous sommes encore ce matin touchés par ton amour, ça nous dépasse. C'est impossible à décrire. Et comme je disais dans la semaine avec Steven, quand on réfléchissait ensemble à l'amour de Dieu, et on disait ensemble, voilà, l'amour de Dieu c'est comme un océan et on n'arrivera jamais au fond. Et même si nous arrivons au fond, il y a tellement encore à découvrir. Ton amour nous dépasse. Père, que nous sachions nous abaisser pour nous servir les uns les autres. Et nous te demandons de continuer à créer cette communauté de personnes purifiées par toi, qui va être caractérisée par l'amour, le don de soi, l'humilité, le pardon, le service. Je m'attends à entendre des non-croyants ou des gens qui viennent pour la première fois dans cette église à Ozoir dire, quand je vois cette église, je vois l'amour, je vois le don de soi, je vois l'humilité, je vois le pardon, je vois le service. Seigneur, merci infiniment pour ton œuvre dans nos vies. Merci déjà pour ce que tu fais. Et d'entendre ce que Michel a dit, ça montre que voilà, ton église là est présente et elle fait son œuvre. Et je prie que voilà, nous progressions ensemble pour aller encore plus loin. Merci pour ce que tu vas faire, pour la gloire, la seule gloire de ton nom. Amen.